Alors, pour ce matin, mais j'ai prévu de continuer un texte que j'avais déjà prêché au mois de mai, lors de la deuxième visite que nous avons fait en famille. J'avais prêché sur Colossiens une partie des versets de Colossiens 1, et là nous allons continuer à aborder l'épître aux Colossiens, mais un peu plus loin, Colossiens 2, versets 1 à 15 que nous allons lire. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée. Et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu la vie à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Nous allons prier. Père éternel, merci pour ta parole qui nous parle encore aujourd'hui, pour avoir envoyé des disciples pour nous enseigner tes prescriptions. Merci parce que tu nous guides dans chacun de nos choix de vie. Tu nous guides pour savoir comment tu aimerais que nous puissions vivre ici sur terre. Merci pour cette communion aussi que nous avons entre frères et sœurs par ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions que tu puisses nous donner ta révélation de ce que tu veux nous apporter pour aujourd'hui, et que ce soit une parole vivante pour nous, que nous puissions aussi mettre en pratique durant cette semaine. Amen. La dernière fois, quand j'ai prêché sur Colossiens 1, c'était un texte où le thème principal, c'était la volonté de Dieu, et c'était sur la question aussi de la prière, comment on peut prier. Là, on rentre un petit peu plus dans le livre de Colossiens et on commence à comprendre un peu l'état d'esprit de l'Église à Colosse. On voit que le problème dans ces églises, ce sont des hérésies qui sont enseignées. Et donc, qu'il y a un besoin d'enseignement. Et là, l'apôtre Paul, pour pouvoir enseigner, cette église va dépeindre un peu qui est le Christ, qui est cette sagesse même, en opposant avec ce que le monde, et malheureusement même le monde chrétien peut proposer parfois. On voit dans ce verset 2 où il est dit: Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. Il y a un combat qui se fait en communauté. Mais quel est ce combat? Quel est ce combat qui se veut uni dans l'amour du Christ? Ce n'est pas un mauvais combat. Ce n'est pas un combat comme on peut le voir avec des guerres où finalement on pourrait tout perdre à cause de la guerre. Non, il s'agit d'un combat qui se fait en communauté, ensemble, en église, où dans lequel il y aura toute la richesse, la pleine connaissance. Qui se trouve enfoui, caché dans les trésors même de la sagesse et de la connaissance. Alors, quels sont les défis dans ce texte? Eh bien, on va aborder petit à petit aussi les versets 6 au verset 12, où l'apôtre Paul aborde un nouveau sujet qu'il n'a pas encore abordé jusqu'à ce verset dans Colossiens. C'est ce sujet de l'union à Christ qui revient au fur et à mesure, au verset 6, au verset 10, 11 et 12. Du coup, de quelle union au Christ? Qu'est-ce qu'il appelle cette union au Christ? Quand on lit le verset 6 et la première partie du verset 7, Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi qu'elle vous a été enseignée. Cette union consiste en fait à un engagement actif de notre part. Marchez en lui. Mais il y a aussi ce côté un verbe plus passif qui montre plus cette solidité, qu'on doit être solide comme un roc. Enracinez-vous, affermissez-vous. Nous voyons que déjà dans ces deux versets, versets 6 et 7, l'union, ce n'est pas simplement quelque chose de passif où voilà, on est ensemble et pas grand-chose se passe. Mais il y a aussi cette action, marcher ensemble. Donc, cette union, ce n'est pas simplement on se sent bien ensemble, et puisqu'on se sent bien ensemble, il n'y a pas vraiment besoin de faire des efforts parce que c'est naturel. Là, pour l'église de Colosse, ça ne semble pas si évident. Alors pourquoi? Affermie dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. On voit que finalement il y a un combat. qui doit être mené pour arriver à cela, affermi dans la foi. Alors, en continuant nos versets, la deuxième partie du verset 7, on pourra le voir à la fin, quand on aura réfléchi à notre passage. Mais au verset 8, il est dit « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde. » C'est là où on comprend un peu mieux de quel combat Paul veut parler. On voit que finalement, il y a des personnes peut-être qui se prennent pour le Christ, qui a en tout cas une faille pour arriver à cette union à Christ. Il est clair que des personnes mettent en péril l'Évangile, l'Évangile même qui est le Christ. Alors c'est vrai, nous avons tous une certaine philosophie de vie, nous avons tous nos idées, nos idées préconçues liées à notre environnement. Mais qu'est-ce que le Christ nous dit? Quelle est cette sagesse? Quelle est cette vraie sagesse qui nous est demandée? Et c'est vrai que j'ai pu constater que dans nos églises, on peut avoir parfois deux discours. Un premier discours qui peut être un culpabilisateur. Tu es chrétien et pourtant tu fais cela. Dans la Bible, pourtant, il est dit, si tu fais cela, ça va aller mal pour toi. Alors parfois, c'est justifié. Parfois, en réalité, c'est une façon de lire la Bible où il s'agit d'une réinterprétation du texte qu'on met un peu à la sauce d'aujourd'hui sans faire vraiment l'effort de comprendre qu'est-ce que ce texte voulait vraiment dire à cette époque. Qu'est-ce que ça signifiait réellement? Alors, la tendance aujourd'hui est plutôt cette deuxième chose qu'on peut entendre dans l'Église. Malheureusement, on entend plutôt ce discours où on voit des personnes qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, mais qui vont dire que ben, finalement, oui, c'est bien ce qu'il y a dans la Bible, mais il ne faut pas oublier que c'était il y a 2000 ans. À cette époque-là, les gens étaient un peu plus coincés. Moi, j'ai reçu une interprétation de Dieu spécialement. Dieu m'a parlé. D'ailleurs, il me parle à moi personnellement. Parfois, on entend sur des questions, par exemple sur le mariage, ben là, aujourd'hui, je vois pas. C'est dans l'air du temps de pouvoir faire un peu, quand on rencontre quelqu'un, de pouvoir vivre avec cette personne, tout de suite, c'est normal, c'est dans l'air du temps, on évolue avec les gens qui sont là. Alors c'est dans le temps où a été écrit la Bible, c'est vrai que ça ne se faisait pas trop, donc voilà. Et pourtant, je pense que c'est oublier que ce que le monde propose est très loin de la volonté de Dieu. Les règles de vie individuelles et communes ne sont pas malléables dans la Bible. Elles restent toujours les mêmes parce que les dangers n'ont pas changé depuis plus de 2000 ans. Les dangers sont restés les mêmes depuis que le péché a fait son irruption. Et c'est vrai qu'il est très difficile de bâtir une église ensemble quand on a plein d'individualités comme cela qui ont leur propre interprétation ou qui pensent avoir une révélation de Dieu spéciale, un peu originale, sans pouvoir discerner ensemble. Mais qu'est-ce que Dieu veut vraiment pour notre Église, pour nous, en tant que frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ces philosophies? Que faire des personnes qui aussi guettent chaque travers que nous pouvons avoir et qui nous culpabilisent? Qu'est-ce qu'il faut faire des personnes qui ont leur propre sagesse, leur propre philosophie? Alors bien sûr, on pourrait dire, bah oui, un tel, finalement, oui, il vit que sous la loi, il n'a pas compris ce qu'est la grâce. Puis de l'autre côté, dire, bah, l'autre cas, il n'est tout simplement pas en Christ. Mais quelle vie Dieu nous appelle à vivre? Il est dit, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège. La vie chrétienne, ce ne sont pas simplement des mots qu'on trouve dans la Bible. Ce n'est pas non plus des gestes ou des actions qu'il faut accomplir. C'est une vie tout entière qui oriente notre regard sur ce seul but, ce Christ victorieux. Il ne s'agit donc pas de savoir si je peux faire ceci ou cela, ou si je n'ai pas le droit de faire cela. Il s'agit de savoir, mais en quoi, par ma vie, je peux glorifier Dieu. Alors oui, une fois qu'on a cette attitude, par la suite, des questions probablement vont venir nous tarauder. Est-ce que vraiment je fais des bons choix? Est-ce que dans ma vie, je suis si bien en ordre, finalement? Et peut-être là, des frères et sœurs pourront nous interpeller, sauront nous interpeller sur certaines de nos attitudes que nous avons et qui doivent être changées pour glorifier Dieu, effectivement. Mais ce n'est pas une loi qui doit nous faire ça. C'est cette réalité du baptême qui nous submerge et qui fait que nous sommes prêts à mourir dans tous les domaines qui nous empêchent de rentrer en communion avec le Christ. Qu'est-ce que l'Évangile ? Et quand nous posons cette question, qu'est-ce que l'Évangile ? On pose aussi cette question, mais qui est le Christ ? Qu'est-ce qu'il représente finalement? Le Christ incarne cet évangile. Et nous vivons pour cela. Il est mort et ressuscité. Et par cela, il nous a sauvé la vie. Et c'est ce Christ, cette vie qu'il a menée, que nous pouvons observer. Qui est notre évangile. Et finalement, ce que l'apôtre Paul défend cet évangile, cette vie que Christ a menée et que nous sommes appelés à observer, à vivre, à prendre par exemple. Poser la question de qui est Christ, c'est poser la question de l'existence de l'Évangile. Alors, est-ce que l'Évangile peut se vivre à travers des traditions humaines? Le Christ incarne-t-il les traditions humaines? À quel point notre vie incarne l'Évangile? Qui est le Christ pour nous? Et c'est vrai qu'on peut voir dans ce texte que les traditions humaines peuvent être un frein à l'Évangile, un frein à cette unicité que nous sommes appelés à vivre, à cette plénitude de Dieu. Parce que la tradition a pour risque de cacher la réalité de nos cœurs, de nous faire prendre pour quelqu'un d'autre, pour un autre homme. Parce que finalement, notre vie ne peut pas se cacher éternellement. Et cette vraie sagesse, finalement, se trouve à travers une vie que nous pouvons vivre véritablement, de façon véritable. Quand on observe un chrétien, ce sont ses caractéristiques que nous devons pouvoir observer. Des personnes qui se remettent à Dieu, qui ne cachent pas, qui sont pécheurs, même quand les circonstances sont difficiles pour demander pardon. Oui, le maître est là-haut et nous avons des responsabilités à prendre. Ce n'est pas la Bible qui fait demander pardon finalement, mais c'est la compréhension de ce qu'est l'Évangile, ce que Jésus a fait, qui nous fait demander pardon. La Bible nous enseigne, mais c'est Christ qui nous transforme. Et je crois que c'est très important de comprendre cela. Je ne pense pas avoir raconté déjà cela, mais ce qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance, c'est une fois, je m'étais fait bien gronder par mon père, donc j'étais beaucoup plus jeune, je pense que j'avais 10 ans. Et bon, il semblait vraiment injuste parce que je n'avais pas fait ce que il disait que j'avais fait, ou enfin, il me semblait en tout cas. Enfin, en tout cas, il s'était mis dans une grande. Mon père s'était mis dans une grande colère, et puis bon, par la suite, du coup, je suis allé dans ma chambre tout seul. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, après quelques instants, mon père est venu dans ma chambre et il a demandé pardon, parce que il a compris que peut-être c'était un petit peu exagéré, que sa colère était peut-être un peu exagérée, peut-être que c'était pas approprié. Alors, pour moi, qui avait 10 ans, je voyais mon père comme intouchable, surtout, voilà, je ne pouvais pas. Je ne m'amusais pas trop à essayer de le titiller. Donc c'était quelque chose qui m'avait beaucoup touché de voir que même mon père pouvait avoir cet acte d'humilité envers son enfant. Alors il ne faisait pas ça toujours, hein, mais pour ce cas-là où il s'est rendu compte que peut-être c'était un petit peu disproportionné. Et il a demandé pardon parce que il a trouvé que ce n'était peut-être pas justifié. Et parce que il est conduit aussi par cet amour de Jésus-Christ. Et je crois que ce sont des attitudes comme cela qui peuvent nous marquer dans notre vie. Alors, comme je disais, la Bible nous enseigne, mais c'est vrai que aussi à travers la vie des chrétiens, à travers la vie des personnes que l'on observe. Et Paul se savait aussi observer et faisait très attention à cela, comme Jésus aussi. On parle de cette image qu'il pouvait renvoyer. Et je crois que nous devons aussi faire attention que notre évangile, en fait, est incarné. Il n'est pas des mots qu'on trouve par-ci, par-là dans la Bible, mais une vie qui est transformée parce que nous avons été enseignés par la parole de Dieu. À partir du verset 11 de Colossiens 2, on a toute une réflexion qui concerne le corps. Il parle de l'union avec Christ jusqu'à la mort, et que Christ nous relève avec lui par la résurrection. La réalité de qui on est, des hommes et des femmes morts à cause du péché, mais devenus saints en Christ par la plénitude de Dieu. Et là, le baptême n'a aucun sens s'il est juste un rituel, une tradition. Par contre, il prend tout son sens s'il est compris comme un acte de dépouillement, s'il est compris comme cela, ce que j'ai pu vivre, connaître, comprendre le Christ grâce au témoignage d'une véritable vie, et non pas des idées, des conceptions qu'on peut se faire, nous aussi, nous serons capables de vivre une vie pleine et dépouillée, capables sans nous rendre compte que Dieu agit à travers nos agissements, nos paroles et nos actes. C'est vrai, la chair est faible, mais en Christ, nous sommes pleinement comblés, car c'est lui notre autorité. Alors, quel est notre évangile? Eh bien, prenons garde à qui nous prêtons tant d'attention. Nous nous sentons probablement très faibles parfois dans notre corps, mais la Bible va nous aider parce que nous aurons compris qu'à l'intérieur, nous avons le témoignage d'un homme qui nous montre une grâce qui nous dépasse. Tout ce que nous lisons dans la Bible doit être à la lumière de ce que Christ a vécu, parce que c'est là qu'est notre évangile. C'est à cela que nous voulons suivre le bon exemple. Nous sommes pécheurs et parfois peut-être en tant que chrétiens nous nous posons la question de qui fait réellement autorité. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est notre corps? Dieu ou est-ce que c'est nos pulsions? Mais Dieu nous a pardonnés. Mais nous décidons chaque jour de renouveler cette réalité du baptême qui ensevelit tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Et nous demandons à Dieu de le renouveler. C'est vrai, le programme peut être long, mais c'est ça le bon combat que l'apôtre Paul nous appelle à vivre. C'est ça le bon combat que l'Église peut porter. Il ne s'agit donc pas de nous dénoncer les uns les autres, mais de porter ensemble toutes ces bonnes préoccupations et de prier les uns les autres que nous puissions vivre cette réalité du baptême, non comme un rite de passage, mais comme une réalité qui se vit dans chacun des croyants. Et au verset 7, que je n'ai pas encore fait allusion, verset 7 de la deuxième partie, où il est dit « Soyez en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Et c'est là où nous pouvons remercier Dieu pour tous les progrès que nous avons pu réaliser. Sans cet évangile, sans le Christ, ça aurait été impossible. Alors, quels sont encore les progrès à faire? Comment puis-je aider notre frère, notre sœur? Comment puis-je aider l'autre à progresser? Je suis découragé? Laisse-toi transformer par cet évangile. Passe du temps avec ton Créateur, dans sa parole qu'il nous a laissée, et prie. Dieu te restaurera. Amen. Père éternel, nous te prions pour que tu puisses vraiment nous transformer dans nos pensées, que tu puisses nous transformer dans nos agissements. Père éternel, pardonne-nous pour tous nos manquements. Pardonne-nous parce que nous sommes si faibles. Mais Seigneur, merci parce que toi-même tu t'es incarné. Tu es venu en tant qu'homme. Tu es venu rapprocher de nous pour que nous puissions prendre exemple à toi et surtout pour que nous puissions vivre avec toi éternellement. Et Seigneur, nous voulons sur terre progresser avec toi. Nous ne voulons pas rester au même stade, mais nous voulons petit à petit progresser dans ta connaissance, progresser dans nos attitudes, progresser dans notre charité les uns envers les autres. Seigneur, nous voulons être plus disponibles aussi pour les autres. Nous voulons être plus disponibles pour toi et te remettre toutes nos difficultés à toi pour que nous puissions être dans nos pensées à toi, Seigneur. et plus être envahi par les mauvaises pensées de ce monde. Je te prie pour chacun d'entre nous, je te prie aussi pour les familles. Je te prie pour les amis ou pour la famille qui n'ont pas fait encore ce choix de te suivre ou qui ne font pas ce choix de te suivre. Je te prie pour notre témoignage de cet évangile, de cette vraie vie que tu as vécue, Seigneur, de ce témoignage de ce que tu as vécu. Que tu puisses nous renouveler de jour en jour, Seigneur. Si nous sommes fatigués, découragés, que tu puisses nous renouveler, Seigneur. C'est notre prière pour aujourd'hui. Amen.